Les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
Personne n'ose provoquer l'avenir. Faudrait être fou pour provoquer l'avenir.
À l'automne 2015, elle est partie s'installer en Bretagne, au nord de Brest, dans le Finistère, dans le hameau de Couettemel. Au début, elle est arrivée pour quelques mois, avec l'idée d'enquêter sur le système agroalimentaire. Puis les mois se sont transformés en années, et voilà 2 ans qu'elle vit là, en centre-Bretagne. Durant toute l'année 2016, Inès Leroux a écrit son journal breton, dont nous avons diffusé 8 épisodes dans Les Pieds sur Terre. Au départ, elle a commencé par essayer de révéler des scandales. Elle a notamment enquêté sur l'affaire des algues vertes qui jonchent les belles plages bretonnes, en particulier dans la baie de Saint-Brieuc et la région de Fouesnant dans le sud Finistère, et qui ont fait plusieurs victimes. Cette enquête est d'ailleurs devenue une bande dessinée par Pierre Van Hove, publiée dans le dernier numéro de la revue Dessinée, 45 pages sur l'omerta qui entoure les algues vertes et les causes politiques et économiques de cette omerta. Cette revue est disponible, je le précise, dans toutes les bonnes librairies. Avec le temps, Inès est aussi passionnée pour tous les détails qui permettent de comprendre comment fonctionne l'agriculture intensive et pour la façon dont elle s'inscrit dans la vie quotidienne de chacun. Elle n'a pas cessé de tenir ce journal au long cours, dont nous commençons à diffuser aujourd'hui la 2e saison. 2 ans plus tard, Inès a choisi de l'ouvrir en nous racontant ce qui a changé dans son village pendant ce temps, ce qu'elle a vu naître ou disparaître, les transformations, reconversions, modifications de parcours chez les hommes et les bêtes, qui racontent à leur façon la rapide évolution des campagnes. Comme on l'entend, dans Les Pieds sur Terre, jusqu'à 14h, premier épisode du nouveau journal breton d'Inès Leroux. Que sont-ils devenus ?
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
Depuis 2 ans maintenant, je vis dans un hameau de 9 maisons dans les Côtes d'Armor. Je n'ai pas réussi à faire installer Internet chez moi. Je me rends donc souvent au village de Melpestivien, chez Yolande.
Bonjour Yolande.
Salut Inès.
Je voulais savoir si tu pouvais faire un petit peu d'Internet.
Ça arrange pas de problème. Tu ne peux pas être dérangée, tu vas t'arrêter.
Merci.
Elle me propose de travailler dans son salon, pendant qu'elle sert les clients à côté. Parfois, je préfère rester dans la salle du bistrot. L'ambiance y est toujours très chaleureuse. Yolande tient un minuscule café pompe à essence, tandis que son mari Camille tient le garage attenant. Une porte permet d'aller de l'un à l'autre.
Pression, 2 pressions.
Yolande ?
Oui ?
Est-ce que le rétro est arrivé ?
Oui, je pense qu'il est arrivé.
Il est arrivé ?
Donc, le rétro, on le posera que demain.
Ah oui, bien sûr.
Oui,
D'accord.
Parfois, c'est assez amusant, des clients boivent un coup, pendant que Camille répare leur voiture à côté. Enfin, réparée. Car ça, c'était en 2016. Depuis, le garage a fermé. Tout le monde s'y attendait, mais ça a apporté un sacré coup au village.
Et moi, je voulais savoir quand est-ce qu'il avait fermé le garage.
Ici, 31 décembre 2016, ma fille.
Ça fait un trou.
Pourquoi ?
Il y a moins de monde.
Qui vient ici ?
Il y a moins de mouvement, tout de suite. Ah, oui. C'est un manque pour la commune également. Hein.
Oui.
De ne pas avoir un garage.
Oui. Vous êtes monsieur le maire ?
Oui.
Oui.
Vous venez acheter votre tabac ici ?
Oui, tout le temps.
Tout le temps.
J'ai fait cet effort-là quand même, faire un petit commerce quand même, peu qu'on a. Je prends mon tabac pour la semaine.
Celui qui veut quand même se ravitailler, on peut Amel quand même, hein, parce qu'il y a le mercredi, il y a le petit épicier là qui passe, un camion épicier qui fait du porte-à-porte. Hein.
On a le boucher le vendredi.
Oui, le boucher le vendredi, à poissonnier le jeudi. Jeudi midi, à poissonnier, celui qui veut prendre du poisson, c'est le bouche à oreille en fait, hein, il va dans les maisons. Hein. Et puis le pain, 3 fois par semaine quand même, c'est très intéressant.
Tout ce qui est épicerie, on est obligé d'aller sur le commerce ambulant. On ne peut pas vivre avec ça. Non. C'est impossible de vivre avec ça.
Bon, j'avais entendu un conseil municipal dire que ce serait bien, parce que quand il te manque quelque chose, mais ne serait-ce qu'un pot de moutarde, c'était bien pratique. Ah, je lui dis, mais le commerçant, le pot de moutarde...
C'est bon qu'un pot de
moutarde. Voilà. Ça, il ne vivra pas avec un pot de moutarde.
De temps en temps.
Non, c'est pas possible.
On voit quand Sally avait son épicerie, là.
Oui.
On voyait des gens qui venaient, certains faisaient d'efforts de venir prendre quelque chose toutes les semaines, bon, régulièrement quand même, mais d'autres ne venaient pas. Par contre, en l'hiver 2010, quand il y a eu la neige, là on l'avait dévalisé. Là tout le monde avait besoin. Mais dès qu'on pouvait rouler, plus personne n'avait besoin de ces services.
Non,
c'était
non,
fini.
Non. Mais un commerce n'est plus viable à l'heure actuelle. Nous, on a fermé au 31 décembre la partie garage. On avait dit qu'on gardait le bar et la station.
La station d'essence, vous gardez.
Oui, oui, oui. Et les journaux, et le gaz pour ne pas partir comme ça.
Bon, bon, pour ne pas partir d'un coup.
Oui, on aurait eu du mal à supporter. Ouais. Mais quand on fait les calculs, tu as le RSI déjà, donc ça c'est notre...
Le revenu social des indépendants.
Des indépendants, qui est très cher. Ça, tu dois donner 40 et quelques pourcents de ton chiffre d'affaires quand même, quoi. Les assurances, et pour tout ça, c'est 1 500 € tous les trimestres. Parce que ma station est classée Céveso. Donc, c'est dangereux. Donc, tu payais très cher sur la station, quoi. Bon, 1 500 € tous les trimestres, quand même, c'est énorme.
C'est une toute petite station, hein.
Oui, mais attends, je te dis pas tout. Il y a 590 €, 600 € tous les trimestres pour la maintenance des pompes qu'on est obligé d'avoir en cas de contrôle des poids et mesures. Tu as une entreprise qui vient une fois par an, qui te contrôle le débit des pompes, que je trouve ça tout à fait normal. On voit c'est tout à fait normal de contrôler les débits de pompes. Mais tu payes ça 610 € tous les trimestres.
Ouais, 2400.
Ce sont des services en plus qu'on fait pour les clients, quoi. Le gaz, il y a l'essence, il y a les journaux, 10 Ouest France par jour et 3 télégrammes. Hein. Et le bar, pour gagner un peu dans le bar, je dis un peu, pour payer tes charges, il faut rester ouvert très tard le soir. C'est après 6 heures que tu vois les gens qui ont fini leur journée arriver. Il faut rester jusqu'à 10h, 10h30, 11h quelquefois. Ben, ça fait des journées longues. Hein. Ce n'est pas des journées de 7h. Hein.
Parce que tu ouvres à 7h du matin.
7h, oui, 7h, 7h30. Ouais. C'est parce que je veux bien aussi. J'aime bien ce que je fais. Mais là, je fatigue. Je ne suis pas sûre, c'est qu'on va faire plus d'une année. Quoi.
Si, il faut espérer.
Parce que les charges sont quasiment les mêmes que lorsqu'on avait le garage. Et c'est plus du tout le même rapport. Hein. J'ai l'impression de continuer à donner de l'argent sans qu'il n'y ait rien qui rentre dans le tiroir caisse. Hein. Que ce soit
c'est
en...
C'est bien ce qui tue nos commerces, tous nos commerces de proximité, tel qu'ils soient. Hein. Ce sont les charges, ce sont les normes. Oui. Voilà les deux choses principales qui tuent tous nos petits commerces en milieu rural. Personne ne veut en prendre en compte. Aucun politique n'en prend ça en compte.
Ouais, ouais.
Voilà.
Eh oui.
Mais l'histoire des petits commerces est aussi clairement liée à l'évolution de l'industrie agroalimentaire. Ce garage, par exemple, il a été ouvert il y a 60 ans par le père de Camille. Le père de Camille était au départ maréchal ferrant. À la fin des années 50, lorsque les tracteurs ont commencé à remplacer les chevaux, il a dû s'adapter et il s'est reconverti dans la mécanique agricole. Il a donc ouvert ce garage. En 1967, il y a 50 ans, son fils a pris sa succession. Aujourd'hui, Camille a 68 ans, il part à la retraite et tout le monde sait que personne ne va reprendre l'affaire ou en ouvrir une autre dans le village. Car désormais, ce sont les grands garages des zones industrielles qui s'occupent de réparer les engins agricoles en sillonnant les campagnes avec leurs camions de dépannage. Les villages ruraux deviennent des villages dortoirs.
Oui, et puis là, il y a plein de choses qui... plein de choses. La cessation d'activité du garage, c'est pas simple de faire. J'avais un employé, il a fallu le licencier. Quelqu'un qui était depuis 34 ans avec nous, on a mal au cœur quand même, quoi, il faut dire... Au début, on ne savait pas s'il allait retrouver du travail ni rien du tout. C'est quand même... mon employé a été plus longtemps avec moi que mon fils. Alors, donc, c'est comme notre enfant.
Tout arrêt d'activité, c'est quelque chose d'important, qui est très dur à vivre.
C'est très difficile d'ouvrir la porte du garage, là, et d'aller, il n'y a plus personne. Tout est immobile, en te disant qu'il n'y a plus personne qui va travailler dedans, quoi. L'autre jour, j'étais au bureau, Camille était au garage en train de bricoler, et puis j'étais embêtée avec quelque chose. J'ouvre la porte entre le bureau et je dis, Gilbert, tu vois, j'ai appelé mon ouvrier, parce que c'est lui, c'était pas la peine que j'appelle Camille, Camille me répondait jamais. Alors donc, c'était Gilbert, j'allais lui demander, ça reste, hein.
Et qu'est-ce qu'il est devenu, Gilbert?
Ah, il a trouvé du travail à Carhaix, chez Renault à Carhaix, donc très bien. Il a été que 8 jours sans travail et il vient 2 fois par semaine, il vient nous voir. Et je trouve que c'est très bien. J'ai besoin de le voir. C'est comme ça. Je serais vraiment déçue et puis malheureuse s'il venait pas, quoi. Mais là, pour l'instant, il revient encore 2 fois par semaine. Et puis on voit bien que ça lui fait plaisir aussi de revenir, quoi. Et tout le monde est content quand on le voit.
Et en fait, Yolande, ta cuisine, elle est attenante au bar, en fait.
Oui, ça a toujours existé. Tout est ouvert.
Et là, en même temps que tu tiens le bar, tu vas te préparer tes steaks.
Ah oui. Tout le monde a l'odeur et tout, quoi. Voilà.
Faire à manger pour Camille et toi.
Oui, et avant je faisais pour Gilbert aussi, avant que ça ferme, quoi. Il mangeait avec nous, il a toujours mangé avec nous. Du matin qu'il arrivait jusqu'au soir, on repartait.
En quelques mois, dans mon village des Côtes d'Armor, il y a eu d'autres changements marquants. Souvenez-vous, il y a 1 an et demi, j'avais rencontré Jeannine.
Bonjour.
Bonjour. Entrez. Maintenant, c'est mon fils qui tient les poulaillers.
Et un jour, est-ce que vous croyez que je pourrais visiter les poulaillers?
Ouh, ça, j'aime pas. Parce que j'ai eu fait ça encore d'autres fois, une fois ou deux à des jeunes, justement. Parce que j'ai eu 2 gidrureaux, là. Et j'avais 3 jeunes Allemands, à un moment donné, et m'ont demandé à visiter les poulaillers. J'ai fait... Oh là là, et après, qu'est-ce qu'elles ont critiqué, il paraît. Elles ont dit des conneries, elles ont critiqué. Mais ça a fait du bruit, elles ont... Et mon fils, après, a dit, ouh, jamais, je ne veux plus que tu m'emmènes personne.
Donc vous ne faites plus visiter les poulaillers?
Oui, oh non, n'allez pas, je ne sais pas.
Et vous les aimez bien, les poules?
Oh, les aimer, on n'a pas d'amour pour les poules, hein, ça. Vous avez 200 000 poules, vous n'irez pas aimer 100 000 poules, 10 000 poules, là, qui sont... Non, je vois pas.
Le fils de cette habitante d'un village voisin élève donc 200 000 poules pondeuses en cage. Enfin, élevait. Je le croisais parfois au volant de son 4x4 rutilant. On pensait tous que tout allait bien pour lui. Il s'est suicidé il y a quelques mois. Dans le village, on dit que c'est l'interdiction prochaine des poules pondeuses en cage d'ici à 2022 qui l'avait découragé. Dans mon hameau aussi, il y a un élevage de volailles. De l'extérieur, ça ressemble à d'immenses hangars industriels. On ne peut rien voir de ce qu'il se passe à l'intérieur. L'élevage est tenu par 2 frères. Ils ont 72 000 poulets de chair. Vous vous rappelez peut-être que nos relations n'étaient pas simples au début.
Bonjour, ça va?
J'aime pas être enregistré.
J'ai l'impression que... Ici, c'est quand même dur de parler avec les agriculteurs du coin.
Par une journaliste, des fois, ils nous démontent aussi. Ils cherchent des trucs à scandale.
Ici, on se méfie des journalistes. Mais depuis, j'ai bu quelques cafés chez les 2 frères. Et récemment, à l'occasion d'un nouvel arrivage de poussins, j'ai même été conviée à visiter le poulailler.
Vous attendez des poussins, c'est ça?
Oui.
Et vous allez aider à les décharger, en fait. Et à chaque fois que vous amenez les poussins, vous amenez vos enfants aussi?
S'ils sont en vacances, ouais, ils vont décharger les caisses de poussins.
Vous avez quel âge?
9 ans.
Et pourquoi il fait si chaud? Il
faut que la dalle soit chaude, c'est une dalle béton, il faut bien la chauffer.
Et là, vous fermez toutes les fenêtres parce qu'il faut que ça soit dans le noir?
Les fenêtres du haut, oui. Parce que les animaux, ils sont effrayés par la luminosité au démarrage. Ils sont nés cette nuit.
Donc là, en fait, vous allez recevoir...
J0.
Des poussins J0.
Ouais.
Et ils sont 24 000.
Oui.
Et après, tous vos poulets vont chez McDo, c'est ça?
C'est du poulet à découpe, c'est pour faire du nuggets, donc.
Le poids lourd vient d'ouvrir son haillon. Je regarde les colonnes de caisses, relativement petites, dans chacune desquelles 100 coussins d'un jour s'agitent comme ils peuvent. Soudain, mon regard se fige sur une patte qui tremble frénétiquement, bloquée à travers le grillage.
Il y a un endroit en bas là, j'ai peur que... Tu vois la patte? Ils se sont un peu...
Si la patte bouge, c'est qu'il est vivant.
Ah, ouais, ça va alors.
Une fois que toutes les caisses de poussins ont été déposées dans le hangar, les hommes et les enfants les lèvent une à une et les secouent. Des paquets de poussins atterrissent sur le sol.
En fait, vous jetez les poussins.
Ouais, mais on va pas les enlever un par un. Ça leur apprend à voler comme ça.
Tu voudrais bien travailler avec moins d'animaux au mètre carré ?
Mais le souci, c'est que le consommateur ne serait pas prêt à payer sa viande deux fois plus cher. En volaille, 1000 mètres carrés ou 1500 mètres carrés suffisait, maintenant il en faut 4000. Et puis les bâtiments sont de plus en plus coûteux.
Des bâtiments comme ça, ça coûte combien ?
Confronté au dehors de 300 euros du mètre carré.
Comme il y a 1200 mètres carrés.
Voilà, 360 000.
Un bâtiment ?
Ouais.
Donc là, vous en avez pour 1 million d'euros avec vos trois bâtiments ?
Voilà.
D'emprunt ?
Voilà.
Vous avez 5 enfants ?
Oui.
Il y en a un qui veut devenir éleveur ?
Aucun pour l'instant. Enfin, les grands ne le sauront pas, ils prennent d'autres voies. Ils ne sont pas passionnés comme nous on pouvait l'être à leur âge.
Aujourd'hui, les poussins courent, mais dans quelques semaines, une fois qu'ils auront grossi, ils ne pourront plus vraiment bouger. Ils sont 20 par mètre carré.
Gilda, là, t'as une représentation du poulailler sur ton iPhone ?
Voilà.
C'est incroyable.
C'est l'ordinateur qui est dans le bâtiment, on le retrouve sur l'iPhone.
Donc
on peut mettre des alarmes sur tout, sur la consommation d'eau, sur la consommation d'aliments, sur la ventilation, sur la température, sur les gravettes, sur tout.
Donc en fait, tu peux commander à distance.
Voilà.
Du coup, une fois que tes 24 000 poussins ils sont dans le bâtiment, t'as plus besoin d'y aller, toi.
Si, il faut voir comment ils se comportent et ramasser les morts. Ils ne résistent pas tous, hein.
Dans les environs, aucun autre volailler n'a accepté de me faire visiter son poulailler industriel. Pas même l'éleveuse bio du hameau. Ici, le bio-industriel se préserve bien des regards extérieurs. Mais mes voisins, les deux frères, sont comme ça. Ils ont des bâtiments de type industriel, mais ils me laissent entrer. Ils utilisent des produits chimiques sur leur culture, mais ils ont aussi des ruches. Ils ont même des vaches auxquelles ils laissent les cornes et donnent des noms. Ce sont des montbéliardes, blanches et marron.
Elle va vêler. Et donc, on va la mettre dans le box.
Papa, comment tu sais qu'elle va vêler?
Elle se prépare à vêler.
C'est pas gagné. Hein.
Ces derniers mois, ce troupeau de vaches a retenu toute mon attention. Pour comprendre les événements qui vont suivre, il faut savoir que les troupeaux aujourd'hui sont spécialisés. Ils produisent soit du lait, on parle alors de vaches laitières, soit des veaux pour la viande, on parle de vaches allaitantes. Or, à cause de la chute des prix du lait, mes voisins ont décidé de transformer leurs troupeaux de vaches laitières en vaches allaitantes, donc en troupeaux de vaches à viande.
Éline, va devant avec ton frère.
Les vaches laitières n'allaitent jamais leurs veaux. Chaque année, ils leur sont retirés à la naissance. Alors que les vaches allaitantes, elles, nourrissent leurs petits. Allez. J'étais donc impatiente de voir comment les vaches de mes voisins allaient accueillir leurs petits, les allaiter et vivre pour la première fois auprès avec eux. J'ai suivi de près cette reconversion avec Hulotte, la première vache du troupeau à mettre bas cette année. Ce jour-là, nous sommes allés la chercher au champ et ce ne fut pas simple de la faire entrer dans un box de vélage.
Chacun a son poste. Hein.
Corentin, je lave derrière la barrière.
Une fois qu'elle est arrivée là-bas, Adèle, tu rabats la barrière.
Viens par là, pour qu'elle n'a pas venir.
Regarde, si elle retourne, tu te pas.
C'est bon, Jeanne.
grand merci tout le monde.
Regarde son pied quand t'as regarde sa mamelle.
Quand même, elle a un gros pied.
Regarde sa mamelle.
Elle est enceinte. C'est normal.
À leur naissance, et si c'est ta vache qui avait lait, c'est à toi le veau.
Ouais. En fait, Grenouille, c'était ma vache et on l'a coupée.
On l'a tuée, quoi.
Pour faire du bistec caché.
C'était ma vache.
C'était une tourolière.
C'était ?
Une tourolière.
C'est une génisse qui fait comme un taureau. Elle meugle comme un taureau. Aïe.
Et elle monte.
Elle monte sur les vaches.
Elle va pas se laisser faire avec le mâle.
Elle se débat.
Elle va monter sur le mâle. Et du coup, elle va pas avoir de veau.
Et on l'a mangé. On l'a mangé presque tous les midis.
Peut-être.
Papy qui l'a déjà fait, qui l'a décortiqué.
Oui, et nous, on a participé. Moi, j'ai broyé la viande.
Moi, j'ai mis dans les sacs.
Et moi aussi, j'ai fait la carrure du bistec caché. Ça fait un peu triste quand il y a des vaches qui meurent et qu'on doit les tuer.
Et Jade, ça pourrait être ton veau, le petit qui va naître.
En espérant que ça soit une femelle, parce que sinon... Et en espérant que ça soit pas une tourolière.
Parce que sinon, t'auras eu que des vaches tourolières.
Tu vas l'appeler Grenouille.
Oui, peut-être.
Non.
Il y a quelques mois, pour leur reconversion, les deux frères ont pensé envoyer une partie de leur troupeau à l'abattoir. Ils avaient en effet appris que leur vache laitière, surstimulée par la traite, continuerait à produire de grosses quantités de lait, bien plus que les besoins de leur veau. Le lait restant pourrait alors entraîner de graves infections dans les mamelles des vaches. J'étais sidérée à l'idée que ce troupeau que je voyais passer matin et soir devant mes fenêtres se trouverait bientôt dans les couloirs de la mort. Mais finalement, ils ont voulu lui donner une chance et tenter le tout pour le tout. Hulotte était donc la première vache à veler cette année. Nous savions tous que son vélage en dirait peut-être long sur l'avenir de la reconversion.
Alors ?
Il va falloir que je la lève. Parce qu'il est mal couché. Il ne pourrait pas sortir.
Il ne peut pas sortir ?
Non. Les pieds sont croisés.
Qu'est-ce qu'il y a ? Donc là, Gilda, tu la fouilles, en fait. Et tu sors un sabot.
Il est un peu de vache.
Charmant.
Tu veux que je tire ou...
Oui, t'es prêt.
Je suis pas prête.
À nous deux.
Putain, il est gros. On n'arrivera pas. Ah. Purée. Ah. Super, c'est la nature, hein.
Tu veux j'ai un mouchoir, t'en veux ?
Non, c'est bon. Corentin, mets bien la lumière, s'il vous plaît.
Il faut prendre la véleuse.
C'est un truc qui va tirer plus fort, la véleuse.
Mets-la comme ça, et fais gaffe, si jamais elle recule, restez pas derrière, va sur le côté.
Corentin, il y a tous les enfants qui tiennent des lumières, parce qu'il fait nuit.
Doucement, laisse la tête venir. Attends, baisse.
Ah,
baisse la véleuse maintenant.
Il est vivant, doucement.
Tire. Doucement maintenant. Elle aurait pas fait toute seule.
Pourquoi ?
Parce qu'il était gros. Et il était temps de sortir.
C'est lui qui fait ce bruit-là ?
Ouais, il a pas la vallée d'éclair.
Papa, pourquoi elle pisse du sang ?
Ah !
Elle peut sortir la matrice et arrête de pousser. Là.
La matrice, c'est quoi ? C'est l'utérus ?
Ouais.
Papa, elle est en train de pousser encore.
Non, arrête.
Papa, il a...
Hey !
Fais gaffe, papa.
Allez !
Lève-toi, c'est ton petit.
Mais va, ton petit.
Allez, je vais lève-toi.
Pourquoi vous voulez qu'elle se lève ?
C'est pour éviter qu'elle pousse.
Oh, regarde, c'est petit jeu, il voit. Oh, il est trop mignon. Et la tête, il fait. T'as vu les oreilles écartées. Elle est montée.
C'est une femelle.
Ouais. Et l'autre, tac des filles.
Il essaie de se lever.
Ouais.
Attends,
Attends, on va se lever. Oui, ma belle. Oh, t'as réussi là. Oh non. Bon, il faut que tu trouves ton équilibre maintenant. Allez, allez, ma belle. Et on est tes supporters.
Chouette. Et Inès a pu assister à un vélage.
Bah ouais, mon premier vélage.
Avec Véluse.
Les histoires réelles étant parfois cruelles, Hulotte ni aucune de ses collègues vaches laitières n'a pu allaiter. Certaines avaient trop de lait. D'autres, par manque d'habitude, ont refusé leurs petits. Elles ont donc repris leur carrière de vaches laitières pour une dernière saison. Seules les génisses, les jeunes vaches qui n'avaient jamais été traites, vivent au pré avec leurs veaux et pourront être gardées. Un suicide, un centre-ville qui se vide et un troupeau qui partira sans doute à l'abattoir à cause des prix du lait. Certes, les nouvelles de mes voisins ne sont pas excellentes. Mais dans le prochain épisode, vous entendrez qu'il y a aussi des habitants qui essaient de changer cette logique et qui y parviennent.
Aujourd'hui encore, c'était Les Pieds sur Terre et le journal breton d'Inès Lérault, deuxième saison, premier épisode. Un reportage réalisé par Emmanuel Geoffroy. Merci bien sûr aux voisins de Mel Pestivien, à Alice Sternberg, à ses parents. Et merci également aux parents d'Inès qui lui prêtent leur voiture pendant tout ce temps. Sandrine Chaperon, c'est l'attachée de production des Pieds sur Terre. Et Marguerite Delassa, c'est notre stagiaire. N'hésitez pas à partager ce journal breton sur les réseaux sociaux. Nous avons une page Facebook et un compte Twitter qui attendent vos commentaires et aussi vos partages, au moins si vous avez aimé cette émission, évidemment.